Vous écoutez, on lit pour vous.
Elles choisissent les films qui jouent dans nos avions. Un texte d'Olivier Duruisseau, paru le 19 décembre 2024 dans Le Devoir. Ils passent inaperçus, ou presque. Ils sont pourtant des acteurs essentiels du milieu culturel. Le Devoir propose une série de portraits de métiers de l'ombre à travers les confidences de professionnels qui les pratiquent. Aujourd'hui, les responsables de la programmation des systèmes de divertissement des compagnies aériennes. La plus grande salle de cinéma au pays se trouve dans les airs. Dans sa flotte de quelque 200 avions, Air Canada propose plus de 1000 films et 3500 épisodes de séries télé grâce à son système de divertissement à bord. Air Transat et WestJet offrent également des centaines de films. Mais qui les sélectionne et selon quels critères? Admettons tout d'abord qu'il peut sembler étrange de s'intéresser à ces travailleurs de l'ombre dans le cadre d'une série consacrée aux métiers de la culture. Mais à bien y penser, les responsables de la programmation des systèmes de divertissement des compagnies aériennes jouent un rôle clé dans le milieu culturel, particulièrement auprès des distributeurs indépendants. En 2023, la compagnie Air Canada a transporté à elle seule plus de 46 millions de passagers. Il n'est donc pas surprenant que les droits des films présentés à bord se négocient souvent à coups de milliers de dollars pour quelques mois de diffusion. Des ententes dont rêvent forcément les distributeurs québécois, à la situation financière souvent précaire. Partenariat stratégique. Chez le transporteur aérien national, c'est Kayleigh Hennessy, chef de service du contenu et des partenariats, qui a le dernier mot. Son processus de sélection implique des ententes avec les grands studios hollywoodiens, avec les producteurs et les studios indépendants, ainsi qu'avec les plateformes de diffusion en continu, dit-elle. L'entreprise à la feuille d'érable s'est ainsi associée à Apple TV+, Disney+ et Crave. De son côté, WestJet a indiqué au Devoir collaborer avec le Festival torontois de cinéma autochtone Imagine Native, entre autres, afin de faire découvrir du contenu canadien de qualité. Ce type de partenariat avec des festivals est une pratique courante dans l'industrie. Air France, par exemple, propose 1500 heures de cinéma. Le transporteur hexagonal est partenaire du Festival de Cannes, et affiche sur certains vols une sélection spéciale de films issus d'éditions précédentes de l'événement. Anne Bourbeillon est chef des produits en vol chez Air Transat. En plus de sélectionner les films pour la compagnie québécoise, elle peut parfois collaborer avec son équipe de marketing pour « offrir une expérience immersive », explique-t-elle. Ainsi, en mai 2024, lors d'un vol entre Montréal et Bruxelles, Air Transat a, dans le cadre d'un partenariat avec Chocolat Favori, distribué des friandises aux passagers afin de souligner l'arrivée du film Wonka 2023 dans ses avions. C'est pourquoi Mme Bourbeillon dit vouloir trouver les films les mieux adaptés à l'image de marque d'Air Transat, tout en alignant cette programmation sur la stratégie globale d'expérience client de l'entreprise. Pour Air Transat, une compagnie aérienne de loisirs, précise-t-elle, cela se traduit par un mélange diversifié de films et de séries qui plairont aux vacanciers, tels que des comédies, des drames et des films d'action-aventure. Autrement dit, du cinéma plus populaire. Contenu québécois. Cela va sans dire, les films d'accidents d'avion ou portant sur le terrorisme et la radicalisation sont exclus. Les grands studios proposent parfois même des versions édulcorées de leurs films d'auteurs conçus spécialement pour les compagnies aériennes. En 2016, des passagers de Delta Airlines ont notamment dénoncé que la plupart des scènes de sexe de Carol, Todd Haynes, 2015, une histoire d'amour lesbienne, ait été remontée ou supprimée. Air Transat propose 345 heures de divertissement à bord, un nombre qui peut paraître maigre comparativement aux 1500 heures d'Air France. L'entreprise québécoise présente néanmoins 30% de contenu d'ici, probablement la proportion la plus élevée au monde. Air Canada entend aussi tenir compte de la demande régionale et démographique dans l'élaboration de sa stratégie, souligne Mme Hennessy. Elle ajoute cependant que l'accent est mis sur la qualité du divertissement plutôt que sur le respect de quotas. En avril 2023, Le Devoir a rapporté que très peu de contenu télé québécois était présenté dans les avions du transporteur canadien, contrairement aux films d'ici comme Monsieur Lazare 2011, Mamie 2014 et 1995-2024, qui sont plus nombreux. Dans les derniers mois, nous avons entre autres ajouté des séries québécoises comme L'œil du cyclone saison 3. Discussion avec mes parents, saison 6, et La candidate, saison 1, soutient Mme Hennessy. Algorithmisation. Pour faire leur choix, les compagnies aériennes ne peuvent pas tourner le dos à l'algorithmisation qui s'opère dans toute l'industrie culturelle. Elles surveillent en effet minutieusement les films préférés des passagers et les moments de l'année les plus propices à leur présentation. Dans un article de l'hebdomadaire culturel français Télérama paru en 2019, une porte-parole d'Air France a expliqué que l'entreprise espérait même un jour mettre en place des systèmes qui permettraient aux passagers de se connecter lors de chacun de leurs vols dans le but de se faire proposer des films correspondant à leurs préférences. Pour l'heure, Air Canada, Air Transat et WestJet disent se baser sur des sondages menés auprès de leurs clients et de leurs employés, ainsi que sur les données qu'ils recueillent à même les systèmes de divertissement. Grâce à cette écoute attentive, nous avons constaté une amélioration continue du taux de satisfaction concernant notre offre de divertissement, année après année, conclut Anne Bourbeillon. C'était « Elles choisissent les films qui jouent dans nos avions », un texte d'Olivier Duruisseau paru le 19 décembre 2024 dans Le Devoir.
Les selles sur la sellette. Un texte de Mathieu Perrault paru le 12 janvier 2025 dans La Presse. Une lectrice, Nathalie Morin, a demandé « Je ne sais pas si vous allez pouvoir répondre à ma question, mais j'ose vous la soumettre. » Pourquoi les selles sont-elles toujours brunes? Parce que c'est la couleur que prend la nourriture quand elle est fermentée, explique Gwen Falloni, microbiologiste de l'Université de Mayence en Allemagne, qui consacre sa carrière à l'analyse des selles. Quand la nourriture fermente dans les intestins, sous l'action des bactéries, elle devient brune, indique M. Falloni. La couleur peut changer un peu selon ce qu'on mange. Avec la nourriture rouge, elle devient rougeâtre. Après beaucoup de légumes verts, elle devient plus verte. La seule conclusion médicale qu'on peut tirer des selles est lorsqu'elles pâlissent beaucoup. Ça peut être un signe de problème de foie, affirme M. Falloni. Une équipe britannique, qui travaille également à établir des liens entre consistance des selles, temps de transit et contenu du microbiote des intestins, les bactéries qui s'y trouvent, utilise une autre couleur dans ses recherches, le bleu des bleuets. Le bleu des bleuets permet de calculer le temps de transit qui s'écoule entre le repas et la selle, explique Gwen Falloni. Il y a aussi une technologie de pilule intelligente qui permet de mesurer le temps de transit, mais c'est plus cher, donc moins utilisé. De notre côté, nous étudions la consistance des selles pour voir la variabilité naturelle dans la population. Comment le temps de transit et la consistance des selles peuvent-ils nous renseigner sur le microbiote intestinal? La consistance des selles est étroitement reliée au temps de transit dans les intestins, dit M. Falloni. Plus le temps de transit est long, plus les selles sont dures. Ce qu'on veut savoir, c'est le temps de transit qui détermine en grande partie la composition du microbiote intestinal. Si la nourriture ne passe que quelques heures dans les intestins, seules les bactéries à croissance rapide seront présentes. Si c'est plus long, il y a plus de production de méthane et de bactéries anaérobiques qui vivent dans des endroits pauvres en oxygène. Ces bactéries anaérobiques produisent des composés qui causent de la fermentation et de l'inflammation, précise M. Falloni. Certains cas de cancer du côlon pourraient être dus à un temps de transit anormalement long. Échelle de Bristol. Une échelle de mesure de consistance de sel a été mise au point il y a 25 ans par un hôpital universitaire de Bristol. Elle comporte 7 catégories, avec des images et des descriptions allant de sel dur et morcelé, en bille, d'évacuation difficile, à sel totalement liquide. En moyenne, le temps de transit des aliments du repas à la selle atteint 48 heures, mais il peut aller jusqu'à 72 heures. Alors pourquoi certaines personnes vont-elles aux toilettes chaque jour? La nourriture digérée peut être compactée dans les intestins, alors il n'y a pas de lien direct entre la défécation et le temps de transit, dit M. Falloni. Les personnes obèses ont, en moyenne, un temps de transit plus rapide. Mais un sous-groupe de personnes obèses souffre d'une inflammation intestinale habituellement reliée à un temps de transit plus lent. C'est l'une des questions importantes qu'il nous reste à élucider, signale M. Falloni. Il y a aussi l'impact du sexe et de l'âge sur le temps de transit et son implication dans les maladies inflammatoires de l'intestin. Nous voulons aussi voir si les greffes fécales peuvent aider à soigner ces maladies inflammatoires. En savoir plus. 14 à 59 heures. Temps de transit normal correspondant à 70% de la population britannique. Source GOT. 20%. Proportion de la population britannique qui a un temps de transit trop lent. C'était les selles sur la sellette. Un texte de Mathieu Perrault, paru le 12 janvier 2025 dans La Presse.
Le prof dont je me souviendrai, un texte de Philippe Mercure, paru le 6 janvier 2025 dans La Presse. On a tous un prof qui nous a marqués, un enseignant qui a su éveiller notre curiosité, nous a poussé à nous dépasser. Le mien s'appelle Jean-Marc Leduc. Ce texte a toutefois bien failli ne jamais voir le jour. Quand j'ai contacté M. Leduc, comme on l'appelait au secondaire, pour qu'il m'accorde une entrevue, il a d'abord refusé net. J'ai dû user de tout mon pouvoir de persuasion pour le convaincre. « Ça me gêne », me lance-t-il, une fois la rencontre fixée au Collège Saint-Hilaire, où il a enseigné pendant 35 ans, avant d'accrocher sa craie, en 2022. « J'ai plein de collègues ici qui travaillent fort. Quand on place les projecteurs seulement sur moi, ça me rend mal à l'aise. » Lorsqu'il me dit estimer de surcroît qu'un article rendant hommage à un ancien prof relève d'une formule un peu usée, je me sens soudain comme son élève d'il y a 30 ans qui aurait mal choisi le sujet de sa présentation orale. Jean-Marc Leduc avait 26 ans lorsque je l'ai eu comme prof en première secondaire. Il enseignait une matière à laquelle l'école tenait par tradition, mais qui n'avait pas grand-chose pour enthousiasmer les jeunes ados que nous étions, le latin. Ce géant de près de 2 mètres, à la voix grave, a pourtant su capter notre attention comme peu de profs savent le faire, autant pour les déclinaisons latines que pour l'histoire, sa spécialité. Monsieur Leduc tient à dire que les élèves ont contribué à la relation qu'il a su tisser avec eux. Il y a eu dans ma carrière ces états de grâce, ces moments magiques de collaboration, dit-il. Des épisodes où on est parvenu ensemble à s'élever au-dessus de la mêlée pour faire quelque chose de bien. L'image que j'ai, dit M. Leduc, c'est celle du chef d'orchestre qui élève sa baguette et qui obtient exactement le son qu'il recherche de la part de ses cuivres, de ses cordes, de l'ensemble de ses musiciens. Ça ne s'oublie pas. Pour illustrer son propos, M. le Duc se lance dans un art qu'il maîtrise avec brio, raconter une histoire. Celle-ci, que j'avais oubliée, remonte à ma 4e secondaire. Dans notre petite école, les élèves restaient toujours au même local et ce sont les profs qui défilaient devant eux. Or, dans la classe 402, un solide bazar s'était installé. Une vache y aurait perdu son veau, lance M. le Duc. Le matin, le jeune prof sermonne ses élèves et s'emporte. Sans réfléchir, il menace de revenir à la fin de la journée et de jeter tout ce qui traîne par terre et sur les pupitres. Pendant la journée, j'ai le temps de me calmer, dit-il, et de réaliser que si je ne veux pas perdre ma crédibilité, je dois aller jusqu'au bout de ma menace. Sauf que le prof se voit mal jeter du matériel scolaire. Après le départ des élèves, M. le Duc pousse la porte du 402, son sac vert à la main, redoutant ce qu'il va y voir. C'est tout un spectacle qui m'attend, raconte-t-il. J'avais bien spécifié que j'allais jeter tout ce qui se trouverait par terre et sur les pupitres. Par terre, il n'y a rien, immaculé. Et sur chaque pupitre, il n'y a qu'une chose, le manuel du cours d'histoire que j'enseigne. J'ai éclaté de rire tout seul dans la classe, raconte-t-il. Le lendemain, devant les élèves, le fou rire gagne tout le monde. Et là, je me suis dit, « Mon Dieu que t'es chanceux !» Quand je parle d'une communion d'esprit entre un prof et des élèves, d'une complicité, je pense à ça. Ça fait 30 ans, et je m'en souviens encore. Sa recette pour obtenir la confiance des élèves était simple, s'intéresser à eux. En début d'année, il faisait remplir une fiche aux élèves avec des questions sur leurs qualités, leurs défauts, leurs objectifs, leurs passions, leurs meilleurs amis. Je prenais le temps de lire ça. Dès que j'avais ces informations de base, je pouvais m'en servir, entre guillemets, dit-il. Je me souviens que M. le Duc était celui qu'on allait voir quand on cherchait une oreille attentive. Ça n'a pas changé. Au fil des décennies, les problématiques ont évidemment évolué. À sa dernière année d'enseignement, une élève est venue demander conseil à M. le Duc sur la façon d'annoncer sa transition de genre. « Je suis un prof d'histoire, » rappelle-t-il. « Mais quand quelqu'un te fait confiance de la sorte, tu ne veux pas que ça se passe mal. » J'ai consulté le service de santé ici. On m'a référé à des ressources externes. J'ai parlé à un ancien élève qui était une ancienne élève. J'ai essayé de mettre en place le meilleur filet d'intervention possible. Quant à son talent pour capter l'attention des élèves, il admet recourir à des trucs. « Je sais comment me composer un visage de circonstance, » confie-t-il. Je sais comment froncer mon sourcil, comment ajuster ma voix, sur quelle syllabe appuyer. Un peu comme le fait, et je le dis très modestement, un comédien. Et l'humour, toujours présent dans ses cours. Avec l'humour vient la détente, et avec la détente vient la paix d'esprit, énonce-t-il. L'humour est une épice, il faut en mettre. Mais il ne faut pas dépasser la dose recommandée. Monsieur le Duc me racontera bien d'autres histoires que je ne pourrai malheureusement pas toutes relater ici. La plus émouvante concerne une ancienne élève devenue préposée aux bénéficiaires qui s'est occupée de la mère mourante de Monsieur le Duc. Il l'a croisée alors qu'il vidait la chambre de sa mère dans la résidence qu'elle occupait. tout ce qu'elle a fait, c'est d'ouvrir les bras. Et j'ai pleuré ma mère dans les bras de mon ancien élève, raconte-t-il. J'ai été gagnant au double, au triple, conclut-il de cette histoire. On s'investit dans ce métier-là, mais ce n'est jamais à sens unique. C'était Le prof dont je me souviendrai, un texte de Philippe Mercure, paru le 6 janvier 2025 dans la presse.
Une brève évasion. Un texte de Rosémée Autonne-Témorin, paru le 29 mai 2024 dans la presse. Petite, quand Pascal n'arrivait pas à s'endormir, elle s'assoyait à la table de sa grand-mère pour placer quelques morceaux de casse-tête à ses côtés. C'est Marthe qui lui a refilé sa passion pour le passe-temps. Et si plusieurs d'entre nous ont laissé ce jeu dans l'enfance, Pascal, elle, sait toujours en profiter. Il y a 4 ans, Pascal Simard a fondé le groupe Facebook Accro des casse-têtes, province de Québec. L'objectif était noble: créer un lieu d'échange et de revente de produits pour que son loisir favori soit plus écologique et moins coûteux. Si le principe demeure, l'offre s'est rapidement bonifiée. Aujourd'hui, les 8600 membres du groupe s'échangent aussi des conseils et des félicitations. Plusieurs publient des photos de leur réalisation. Certains se donnent rendez-vous dans des espaces publics pour pratiquer leur divertissement ensemble. Et d'autres annoncent les compétitions à venir. Parce que oui, il y a des concours de casse-tête dans plusieurs régions du Québec. Pascal Simard, 43 ans, se fait souvent taquiner avec son passe-temps de ma tante. Pourtant, elle est loin d'être la seule travailleuse active qui se tourne vers cet outil pour ralentir. Un sondage mené par Ipsos en 2019 pour l'entreprise de jeux Ravensburger avance que 48% des adultes américains réalisent un casse-tête au moins une fois par année. Dans le top 3 des raisons citées, la relaxation, le plaisir et la diminution du niveau de stress. C'est un moyen de s'évader à travers l'image et de prendre un moment pour soi, dit-elle. C'est aussi un excellent anxiolytique sans effet secondaire. Un anxiolytique, que vous dites? C'est ce que moi, personne qui n'a pas fait de casse-tête depuis 25 ans, je me suis dit, en tout cas. Cette idée est étonnamment revenue souvent dans les témoignages que j'ai reçus de la part de plus de 200 abonnés du groupe Accro des casse-têtes province de Québec. Quand je les ai sondés sur leur motivation, ils m'ont évidemment parlé de détente, de méditation, de sérénité, de patience améliorée et de fierté. Plusieurs passionnés ont aussi affirmé ne plus voir le temps filer, arriver à se vider la tête et enfin décrocher des maudits écrans, voire réussir à réunir toute la famille autour d'autre chose qu'un maudit écran. Mais nombre de répondants ont du même coup souligné le pouvoir calmant de l'activité. J'ai découvert le casse-tête dans un de mes nombreux moments de vulnérabilité, écrit Véronique Vaillancourt. Étant une personne anxieuse, performante et intense, je n'avais pas vraiment de temps pour un hobby. Pour améliorer ma santé mentale, j'ai essayé la musique, le dessin, les mandalas, l'écriture, le sport, name it. J'ai réalisé que ces passe-temps contribuaient à mon anxiété parce qu'ils nourrissaient mon besoin de performance. Mon mandala devait être beau, ma phrase bien écrite, ma compétence dans le sport impeccable. Le casse-tête me permet de mettre ma switch à off. En lisant ça, j'ai pensé aux stratégies que j'ai employées pour ralentir jusqu'à maintenant. Yoga, méditation, exercice de respiration, cuisine intense le dimanche, bain de glace, fixage de murs. Toujours, j'ai cherché à m'améliorer. Mais pourquoi? Pour rien. L'anxiété de performance jusque dans le ralentissement. Je note de me mettre au casse-tête. C'est aussi en cherchant à se sortir d'elle-même qu'Anne-Claude Séguin a eu le béguin pour le jeu. La femme de 32 ans se préparait pour une compétition internationale de parachutisme quand la pandémie, vous connaissez la chanson. La déprime s'est invitée jusqu'à ce qu'Anne-Claude déniche un casse-tête chez ses parents. Je le regardais et je le trouvais très laid. Mais je me suis dit que ça pourrait peut-être m'occuper. Finalement, réorganiser les pièces, faire un contour et organiser le chaos de 1000 morceaux, ça a été extrêmement thérapeutique. Anne-Claude a découvert avec soulagement qu'il existe plusieurs styles de casse-tête et des créateurs qui sauraient davantage la faire vibrer, parmi lesquels l'artiste ontarienne Nicole Lalonde. J'ai un TDAH horrible, mais à la seconde où je suis devant un casse-tête, tout se calme. Ça me permet de ralentir la cadence, affirme-t-elle. Anne-Claude est devenue passionnée au point d'importer des produits qui ne se trouvaient pas au Québec. Des casse-têtes en matière recyclable, frappés d'une encre moins dommageable, tels qu'ils sont conçus du côté de Trevel et de Cloudberries, par exemple. Aujourd'hui, elle les vend en ligne par l'intermédiaire de sa propre entreprise, Rose Willy. Toujours sur le plan thérapeutique, des accros du casse-tête m'ont dit aussi aimer les résoudre pour entretenir leur dextérité, travailler leur mémoire ou soutenir leur cerveau dans le tourbillon de la maladie. C'est le cas de Dominique Lebel, qui connaît une récidive de cancer du sein. Elle sent les effets cognitifs de la chimiothérapie s'amoindrir quand elle s'attelle à son casse-tête, en plus de profiter d'une brève évasion. « J'ai vraiment besoin de me changer les idées afin de stopper le hamster qui roule sans fin. Je choisis des modèles très colorés ou des paysages où j'aimerais me retrouver. » Et si, à ce point-ci, vous n'avez pas encore envie d'étaler quelques pièces sur votre table pour découvrir les effets que celles-ci pourraient avoir sur le rythme de votre tête ou de votre cœur, laissez-moi vous refiler l'argument massu de Magali Barzi, mère de 7 enfants. Ça me donne l'impression de commencer quelque chose et de pouvoir le terminer. Ça fait changement du reste, le ménage, le lavage, les rénovations et l'épicerie, qui sont toujours à recommencer. C'était Une brève évasion, un texte de Rosemée Autonne-Témorin, paru le 29 mai 2024 dans La Presse.